Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir, c'est un honneur, mais c'est aussi un défi d'être avec vous aujourd'hui pour apporter une perspective pratique à notre thématique de cette matinée, qui sont les mesures conservatoires dans le contentieux judiciaire. Un plaisir parce que c'est toujours un peu partir en villégiature que de venir à l'IASDC avec ce magnifique campus bucolique qui nous fait plus envie de faire l'école buissonnière, mais c'est aussi une opportunité de revoir des amis. Je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer l'amour à l'ISDC, mais j'y ai certainement trouvé des amis et des passionnés du droit international privé. Et j'aimerais ici remercier les organisateurs et l'ISDC en particulier pour chaque année réunir cette communauté de DIPistes, et pas seulement suisses, mais internationaux, parce que c'est une occasion rare. Ça nous permet d'échanger, de garder l'espoir par rapport à certains développements qu'on aimerait plus rapides, mais aussi de trouver des solutions et d'aller au-delà des juridictions. Donc, merci pour ce plaisir. C'est un honneur, bien sûr, d'être associé aux illustres intervenants de cette journée, mais c'est aussi un défi, parce que que dire après tout ce qui s'est dit ce matin, et un défi encore plus grand, qui est celui de jouer l'amuse-bouche avant la pause déjeuner. Et je remercie d'ores et déjà vos estomacs pour leur clémence. Alors, après les hauteurs des précédentes présentations, permettez-moi de vous ramener sur le terrain de la pratique. J'interviens aujourd'hui principalement en tant qu'avocate qui pratique le contentieux international, et je vais partager avec vous mes réflexions et mes expériences en matière de mesures conservatoires internationales. Mon quotidien est fait essentiellement de défis par rapport à l'appréciation des tribunaux concernant cette problématique. Il se compose d'incertitudes, d'inconstance des tribunaux, mais aussi de défis par rapport à des éléments plus prosaïques, à des obstacles plus prosaïques, notamment l'absence de juges spécialisés, les problèmes de délai, et une loi universelle qui est souvent sous-estimée, c'est celle du moindre effort. Et j'y reviendrai un peu plus tard, parce qu'elle permettra d'apporter une réponse à une question qui a été soulevée plusieurs fois ce matin. C'est pourquoi, après autant d'années, nous n'avons toujours pas de réponse à la question de savoir si des mesures provisionnelles rendues hors Lugano peuvent être reconnues en Suisse. Et j'ai mon avis sur la question. Voilà. Donc, je vous propose tout d'abord de faire un petit bilan de ce qui s'est dit ce matin. Ensuite, d'aborder peut-être la question de la mise en œuvre par les tribunaux de ces questions juridiques. Et j'invoque ici la clémence des membres de la magistrature qui sont dans la salle, qu'ils considèrent mes critiques plutôt comme des appels à l'aide d'une praticienne. J'espère que ça suscitera quelques discussions et peut-être des ébauches de solutions. Je passerai ensuite à une présentation de certains exemples en matière de mesures conservatoires et de séquestres, avant d'aborder des questions choisies, rencontrées dans la pratique. C'est une sélection, je n'ai pas la prétention de l'exhaustivité, et j'invite volontiers mes confrères dans la salle à intervenir s'ils pensent à des choses intéressantes à partager. Donc, tout d'abord, le régime légal. On a vu ce matin qu'il y avait principalement deux manières d'aborder les mesures conservatoires en appui d'une procédure étrangère. Tout d'abord, dans le cadre de la reconnaissance et de l'exécution de ces mesures conservatoires étrangères, soit sur la base de la Convention de Lugano, soit sur la base de la LDIP. Alors, la LDIP, le point d'interrogation prévaut, mais par rapport à la Convention Lugano, on en revient à deux possibilités de mise en œuvre du point de vue suisse, soit le CPC avec les articles 338 et suivants, soit l'ALP, encore à voir si ce cas existe en pratique, mais en théorie, il existe. Et puis, deuxième possibilité d'aborder ces mesures conservatoires étrangères, c'est directement dans le cadre d'une mesure provisoire suisse qui serait fondée soit sur la base de la Convention de Lugano, l'article 31, soit sur la base de la LDIP, l'article 10, ou directement par la voie du séquestre, si les conditions sont réalisées. S'agissant du régime de l'exécution, l'article 335 du Code de procédure civile résume, je trouve, assez bien les possibilités. Donc, il explique que c'est l'article 335 qui s'applique pour l'exécution des décisions de manière générale, sauf s'il s'agit de versement d'une somme ou la fourniture de sûreté, qui, elles, sont exécutées selon les dispositions de la LP et qui réservent à l'alinéa 3 les traités internationaux et la LDIP. Alors, j'en viens ici à la question qui a été abordée ce matin. Qu'en est-il des mesures provisoires étrangères hors convention de Lugano? Comme l'a expliqué le professeur Bonomi, la doctrine est divisée. Le TF ne s'est pas prononcé et vous avez parfois des décisions cantonales qui vous laissent espérer que de telles mesures peuvent être reconnues. Alors, j'aimerais ici faire une petite parenthèse et partager avec vous une expérience que nous avons eue en pratique avec une demande de reconnaissance d'une mesure provisoire des îles Caïmans, donc hors Lugano. Et dans ce cadre-là, nous étions défendeurs et nous invoquions justement le fait que de telles mesures ne pouvaient pas être reconnues. Alors, nous avions fait une argumentation très élaborée, très sophistiquée, avec toute une série d'arguments. Et l'argument le plus faible était le fait que cette mesure n'avait pas été proprement notifiée aux défendeurs. Elle avait été publiée dans les journaux, mais ils n'avaient même pas tenté de passer par la voie de l'entraide. Donc, pour nous, c'était vraiment l'argument le plus faible. On avait même hésité à le mentionner. Résultat des courses, on arrive devant le tribunal. Premier argument choisi. On a gagné sur ce point-là. Ils se sont évités toute la réflexion et la discussion sur les autres points un peu plus compliqués. Ce qui fait que je pense que c'est peut-être une piste, c'est que ce sont des décisions complexes qui sont souvent traitées en premier lieu par des juges de première instance qui souvent ne sont pas spécialisés dans ces domaines. Et selon l'évolution de la procédure, vous pouvez tout à fait gagner sur des points annexes et éviter que les grandes décisions de principe soient traitées. Voilà. Dernier point sur le régime légal, comme l'a évoqué le professeur Romano ce matin, les mesures provisoires étrangères sont traitées de manière différente selon leur nature. Si elles sont ad personam, les tribunaux suisses ont tendance à les reconnaître en tant que mesures provisoires, et si elles sont in rem, alors les tribunaux ont tendance à les exécuter sous la forme du séquestre. Et l'arrêt mentionné par le professeur Romano ce matin, qui était l'arrêt grec, a clairement expliqué cette distinction et clarifié maintenant la position pour l'avenir. Alors, quant à savoir si les tribunaux vont l'appliquer ou vont être capables, dans chaque cas d'espèce, de déterminer s'il s'agit d'une mesure ad personam ou in rem, ça reste encore à voir, parce que notamment dans cet arrêt grec, la question était de savoir si le terme d'arrêt qui était utilisé dans la décision grecque pouvait laisser penser que c'était le séquestre donc qui devait prévaloir plutôt que des mesures provisoires. Donc voici une question qui devrait être déterminée dans des cas futurs. Maintenant, j'en viens à la question de la mise en œuvre de ces mesures. J'invoquerai tout d'abord l'arrêt Motorola. Il a été mentionné ce matin. Il a établi de manière certaine, après des hésitations au niveau des tribunaux cantonaux, qu'un freezing order anglais avec une clause Angel Bev pouvait être déclaré exécutoire en Suisse. Par contre, cet arrêt avait refusé d'ordonner l'exécution de ces mesures conservatoires sous la peine des menaces de l'article 292 du Code pénal, sur la base du fait que l'ordonnance n'était soi-disant pas suffisamment déterminée. Un arrêt de 2011, lui, va plus loin et confirme qu'il est possible de demander la déclaration de force exécutoire, en l'espèce c'était également le cas d'un freezing order anglais, sans avoir à demander simultanément des mesures d'exécution. Et je pense que ce point est important parce qu'il dénote une différence d'appréciation par les tribunaux sur cette condition-là. En l'espèce, les tribunaux zurichois de première et deuxième instance prétendaient qu'il n'était pas possible, faute d'intérêt juridique, de demander simplement la déclaration de force exécutoire. Il fallait absolument avoir une perspective concrète d'obtenir des mesures d'exécution pour pouvoir obtenir la déclaration de force exécutoire. Le TF a clarifié cette question et a dit que tel n'était pas le cas. Mais si on lit, il a renvoyé l'affaire pour exécution aux tribunaux zurichois. Et si on lit les décisions de mise en œuvre, les tribunaux zurichois ne se gênent pas de critiquer le TF qui apparemment n'a pas compris le droit et continue à considérer qu'il y aurait besoin d'un intérêt juridique pour pouvoir prononcer ces déclarations de force exécutoire. Alors, ici, vous avez un panorama de quelques décisions qui vous montrent à quel point c'est difficile de savoir comment naviguer la question de l'exécution ou l'obtention de mesures conservatoires en appui d'une procédure étrangère si vous êtes à Zurich, Genève ou Vaud. Et je me recommande sur l'analyse préliminaire avant toute action parce que selon le canton dans lequel vous allez introduire votre action, vous aurez plus ou moins de chances de succès. Je mentionnais le cas de Zurich qui prétendait tout d'abord qu'il n'était pas possible d'avoir une acte Vollstreckbar Erklärung et qui maintenant, dans ses jurisprudences subséquentes, examine encore la nécessité d'un intérêt suffisant, dans certains cas, pour décider s'il faut ordonner des mesures conservatoires ou non. Par contre, si vous lisez la jurisprudence genevoise, la question de l'intérêt suffisant n'est jamais mentionnée. Ce n'est même pas un point qu'ils considèrent ou un critère de détermination dans leur réflexion. Donc on voit que si on est d'un côté ou de l'autre du rejeté Graven, ça fait une énorme différence. Le problème, c'est que vous avez des tribunaux, notamment à Genève, qui ne publient pas leur jurisprudence. Le premier niveau d'instance ne publie pas. Et toutes ces décisions de mesures conservatoires sont souvent rendues et restent au niveau de la première instance. Donc pour avoir accès à ces décisions genevoises, nous avons dû faire une demande sur la base de la loi sur la transparence, aller au tribunal qui vous met à disposition un ordinateur en ayant présélectionné toute une série de décisions, et puis vous devez signer un accord de confidentialité et passer plusieurs heures directement au tribunal pour pouvoir les examiner. Ce qui fait vraiment une différence concurrentielle entre Zurich et Genève, où vous avez un terrain plus favorable à Genève, mais inconnu, et un terrain défavorable à Zurich, mais alors plus établi. Et puis, vous avez le canton de Vaud, qui alors, lui, est beaucoup plus généreux, qui, vraiment sans inhibition, décide que des freezing order anglais, y compris des angel bells, qui sont ces dispositions qui permettent aux défendeurs de pouvoir bénéficier d'un peu d'argent de poche sur l'argent qui a été bloqué. Alors, les tribunaux vaudois, eux, considèrent que toutes ces différentes dispositions peuvent être mises en œuvre sans problème. Et je reviendrai au texte de la décision. Donc, à nouveau, j'attire votre attention sur le fait qu'il est vraiment important de faire du forum running à l'intérieur de la Suisse du forum shopping à l'intérieur de la Suisse pour déterminer quel est le tribunal le plus compétent, parfois même d'aller devant un tribunal valaisan qui aura plus le temps d'examiner vos arguments, qui sera peut-être un petit peu moins fermé qu'un tribunal genevois, mais voilà, ça c'est un point important de la pratique. Mesures conservatoires, donc je passerai rapidement sur les dispositions qui exposent le cadre juridique des mesures conservatoires dans le code de procédure civile. Donc vous avez toute une série de mesures que vous pouvez demander qui sont non exhaustives, comme l'interdiction hors de cessation d'un état de félicite, etc. Les dispositions du chapitre sur les mesures, sur la procédure ordinaire s'applique par défaut aux procédures simplifiées et sommaires, y compris les mesures conservatoires. Vous avez la possibilité de demander des mesures superprovisionnelles, comme le rappelait le professeur Romano ce matin. Et puis, le tribunal qui a ordonné les mesures provisionnelles peut également prendre des mesures d'exécution. S'agissant de ces mesures d'exécution, elles sont aussi rappelées à l'article 340, qui finalement est le pendant, dans le cadre de l'exécution, des dispositions que je viens de présenter. Et qui rappelle aussi que, si nécessaire, des mesures conservatoires peuvent être prises sans entendre préalablement la partie adverse. Voici quelques exemples de mesures qui sont indiquées dans le cadre des mesures conservatoires d'exécution. Et j'attire votre attention sur la lettre A qui prévoit les menaces de la peine prévue à l'article 292 du Code pénal, qui est une mesure que nous aimons bien en pratique, qui finalement implique qu'en cas de violation, alors on pourrait déposer plainte pénale. Et vous verrez que c'est une disposition qui est souvent invoquée à l'appui des mesures conservatoires dans un cadre international. Mais il y a d'autres possibilités, comme celle de prévoir une amende d'ordre de 5 000 francs au plus ou une amende d'ordre de 1 000 francs au plus pour chaque jour d'inexécution. Alors, voici maintenant quelques exemples de ce qu'on peut trouver en pratique. C'est une amende imposée par le tribunal, donc c'est pas une amende qui est... C'est une amende, si vous voulez, administrative, d'administration de la justice. C'est pas une amende imposée par l'autorité pénale. Voici quelques exemples maintenant de mesures provisionnelles qui ont été ordonnées par des tribunaux en appui de procédures étrangères. Alors, elles concernent souvent les freezing orders anglais, et je dois dire que ce serait une grande perte pour la Suisse, ou en tout cas pour les avocats du contentieux international, si on ne pouvait plus bénéficier de la reconnaissance et de l'exécution des freezing orders anglais, parce que dans des stratégies de contentieux international, c'est vraiment un outil auquel on recourt régulièrement. Donc, en l'espèce, le demandeur demandait la reconnaissance et l'exécution d'un freezing order anglais sur la base de l'article 41 de la Convention de Lugano et 340 du CPC. Et dans ce cas, le tribunal de première instance a fait interdiction au défendeur de disposer d'un certain montant, pardon, de disposer de ses avoirs à concurrence d'un certain montant, et ce jusqu'à ce que le délai de recours prévu par l'article 43 alinéa 5 de la Convention de Lugano soit échu, ou un recours éventuel sur ce point. Un autre exemple concerne la requête en exécution d'une ordonnance française avec mesure conservatoire urgente. Et dans ce cas-là, on a ordonné la saisie conservatoire de compte et de nouveau fixé ce délai jusqu'à l'issue du recours prévu par l'article 43 alinéa 5. Un autre cas de mesure provisionnelle demandée à l'appui d'une freezing order anglais. Vous voyez, dans ce cas-là, c'est un peu plus détaillé. On dénomme directement les comptes bancaires. Et puis, on en vient à ce magnifique arrêt du tribunal d'arrondissement de la Côte de 2016, à qui l'on avait demandé l'exécution d'un freezing order anglais comportant une clause Angel Bell avec demande de mesures conservatoires urgentes. Et dans ce cadre-là, le tribunal d'arrondissement de la côte a tout simplement copié la traduction française du freezing order anglais en assortissant aussi les injonctions qui étaient faites de la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal. Ce qui est une mesure... je dirais, assez large. Et à ma connaissance, c'est le seul tribunal qui, pour l'instant, l'a fait. Mais c'est intéressant. J'aimerais, juste avant de terminer sur les mesures provisionnelles, mentionner aussi un aléa pratique. Récemment, nous avons demandé le blocage de certains biens au port franc de Genève. On est sur la base d'une décision française. Nous étions un peu hésitants quant à savoir si nous l'obtiendrons. Et le fait est que le juge qui s'est occupé de l'affaire était une personne qui travaille d'habitude au tribunal des baux et loyers et qui s'occupait des mesures provisionnelles à cette occasion, qui était en période de vacances, juste pour un ou deux jours. Et donc, dans le doute, quand on reçoit une demande de mesures conservatoires, il est plus simple de l'octroyer, puis ensuite on avisera toujours. Donc, et je pense que là, le fait que le ou la juge qui a traité le dossier n'avait pas d'expérience de DIP, mais s'occupait davantage de baux et loyers, a joué un rôle déterminant. Alors, j'aurais bien voulu que notre succès puisse s'expliquer par notre compétence, mais je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Mais c'est pour vous démontrer à nouveau à quel point ces discussions importantes qu'on a ici peuvent être totalement minées, finalement, en pratique. Le séquestre, il a déjà été évoqué ce matin. Je relèverai juste quelques points. Donc, Les conditions du séquestre sont qu'il existe une créance, qu'on ait un cas du séquestre et qu'il existe des biens appartenant au débiteur en Suisse. Et les cas du séquestre souvent invoqués dans notre contexte sont celui du lien étroit qui a été évoqué ce matin, ou l'existence d'une reconnaissance de dette, ou sur la base du chiffre 6, l'existence d'un titre de main levée définitif qui peut être une sentence arbitrale ou une décision judiciaire. Je partage avec vous un seul exemple de séquestre que j'ai trouvé assez intéressant, qui pourrait donner des idées. Un séquestre qui a été demandé sur tous les avoirs que le défendeur avait sur lui lorsqu'il était entendu par le procureur lors d'une audition à Genève. Donc c'était assez ciblé et apparemment monsieur avait une très belle montre, donc quelques avoirs ont pu être saisis à cette occasion, mais ça vous démontre finalement le fait que même si on a un cadre assez limité, on peut être créatif. Voilà, j'en viens à quelques questions pratiques choisies. La première étant le respect du droit d'être entendu. Il a déjà été évoqué ce matin avec l'arrêt Motorola et d'autres arrêts comme Delilahware. L'arrêt Motorola rappelle que le droit d'être entendu du défendeur n'est pas violé si une mesure provisoire est ordonnée ex parte à la condition que la protection des intérêts menacés le justifie et que le défendeur ait la possibilité de recourir contre la mesure. L'arrêt du TF de 2006 soulève que la procédure ait pu devenir contradictoire dans l'état d'origine avant que ne soit demandée l'exécution dans un état requis. Et puis, en pratique, vous voyez que c'est difficile de déterminer comment le respect du droit d'être entendu peut être considéré comme respecté. Alors, le TF avait dit en 2006 que 5 jours ouvrables n'étaient pas suffisants. En 2008, il rappelait que 3 semaines avaient pu être considérées comme insuffisantes, que 3 semaines pourraient être suffisantes, mais que 12 jours ne le seraient pas. Et dans une jurisprudence à nouveau cantonale de 2017, c'était intéressant de relever que le tribunal considérait que l'absence de notification formelle des décisions anglaises n'était pas un problème, parce qu'il ressortait de l'état de fait que le défendeur avait eu la possibilité de se défendre, mais qu'il y avait valablement renoncé. Donc, sans avoir été notifié, il avait exprimé de manière, concrète qu'il ne souhaitait pas se défendre. Ce qui, et à mon sens, c'est une violation claire des dispositions prévues par soit la Convention de Lugano ou soit la LDP. Notamment dans la Convention de Lugano, on sait que la Suisse avait fait une réserve justement à la question de la notification, en exigeant la notification formelle. Mais à nouveau, vous voyez que dans les jurisprudences cantonales, vous pouvez avoir des surprises. Un autre point important, c'est la question des sûretés. Donc bien sûr, si vous avez un joli jugement à exécuter ou vous voulez empêcher une partie de vous attaquer, la première chose à faire, c'est de demander des sûretés pour sécuriser soit vos dépenses, soit pour sécuriser un éventuel dommage que vous pourriez subir. Et ici, je souhaitais simplement mettre en évidence les différents régimes applicables. Tout d'abord, dans le cas de la Convention de Lugano, si vous demandez des mesures provisionnelles, vous retrouvez les bases légales applicables sur l'article 31 de la Convention de Lugano et l'article 264 du CPC, qui permettent dans ce cadre de demander des sûretés. Par contre, si vous demandez la reconnaissance et l'exécution de mesures conservatoires étrangères, alors là, l'article 51 vous interdit de demander des sûretés. Et puis, si on en revient à la LDIP, alors les mesures conservatoires sont ordonnées sur la base du CPC, qui vous renvoie au régime de l'article 264 et qui, à nouveau, vous permet de demander des sûretés. Et la même chose dans le cadre de la LDP, où vous pouvez demander des sûretés en prévision d'un dommage éventuel. Donc ça, c'est vraiment un point à garder à l'esprit en pratique, où vous avez de nouveau des différences de régime selon la voie que vous choisissez. Un autre point important, c'est la question des parties à la procédure. Souvent, ce qu'on souhaite quand on veut obtenir des mesures conservatoires en Suisse, c'est de bloquer de l'argent qui est auprès d'une banque. Mais la banque, souvent, n'est pas partie à la procédure au fond. Donc, vous avez un freezing order anglais, mais dans lequel la banque n'est pas partie, donc elle ne sera pas notifiée et elle n'a pas d'obligation de respecter ce freezing order. Donc, quand vous arrivez en Suisse, la question est de savoir si, quand vous demandez vos mesures conservatoires, vous indiquez la banque comme partie ou si c'est un tiers saisi. Et là, ça soulève des questions importantes en matière de notification, parce que si la banque est partie, vous devez la notifier valablement. Et puis, dans certains cas, vous pouvez avoir des parties qui peuvent faire traîner la notification. J'en viens justement à la question de la notification. L'arrêt du TF 143-328 a clarifié quelque chose que les avocats aimaient bien en pratique. C'était de dire qu'ils étaient mandatés, mais qu'il n'y avait pas élection de domicile chez eux et que leurs clients, qui étaient dans des contrées bien plus lointaines, continuaient à être l'adresse de notification, ce qui permettait, si vous aviez certains pays dans lesquels il fallait au moins une année ou pour notifier les documents judiciaires, voire où c'était impossible, de gagner un petit peu de temps. Et là, le TF a clarifié la question et a dit que dès le moment où vous avez un avocat suisse mandaté, l'élection de domicile est à son étude. Et l'article 40, alinéa 2, de la Convention de Lugano rappelle que dans le contexte de l'exécution, le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Un autre problème de notification rencontré en pratique, c'est celui des délais imposés par la juridiction qui traite de l'affaire au fond. On a eu récemment affaire à une décision allemande qui prévoit un délai d'un mois pour la notification de mesures conservatoires. Et le tribunal de Genève a mis 2 mois, en tout cas, à se poser la question de ce qu'il allait faire. Et vu qu'en tant que partie à la procédure au fond, vous n'avez aucun droit et aucun statut dans la procédure d'entraide de notification, vous ne pouvez pas demander au tribunal ce qui se passe, vous ne pouvez rien faire pour l'aider. Et le tribunal systématiquement vous explique que la question de la notification est un problème d'État à État, et qu'en tant que partie à la procédure au fond, vous n'avez aucun rôle à jouer. Donc ça, c'est des questions très pratiques. Et j'invite peut-être les représentants de l'Office fédéral de la justice, qui sont autorités de surveillance des autorités centrales en matière de notification, à peut-être leur expliquer qu'il serait utile d'être un peu plus ouvert et pragmatique par rapport à ces questions. Parce qu'un exemple concret, vous avez un numéro de téléphone pour les appeler. C'est le standard, vous ne les joignez jamais, c'est impossible de leur parler. Donc, dans des questions, des procédures internationales où simplement le bon sens permettrait de trouver des solutions, il est simplement impossible de communiquer. Voilà, le dernier point, je voulais simplement évoquer les questions d'immunité qui sont aussi importantes en lien avec l'exécution de mesures étrangères, également conservatoires, et rappeler une jurisprudence rendue cette année en lien avec une spécialité suisse qui est la Binnenbeziehung, le lien de rattachement à la Suisse, que la Suisse requiert quand on souhaite reconnaître des décisions étrangères contre un État comme condition supplémentaire aux mesures conservatoires. Comme vous le savez, les questions d'immunité est une prérogative d'État vis-à-vis d'un autre État d'empêcher l'exécution ou d'empêcher déjà vis-à-vis tant de la juridiction que de l'exécution. Et la Suisse considère qu'elle a un intérêt à juger des questions d'immunité seulement s'il y a un intérêt particulier ou un lien de rattachement concret avec la Suisse. S'il n'y a pas de rattachement avec la Suisse, ce n'est pas ses affaires, elle n'a pas envie de se créer des problèmes supplémentaires. La question était de savoir si cette théorie ou cette condition prévalait également dans le cadre de reconnaissance de sentence arbitrale. Dans le cadre de la Convention de New York, la doctrine militait en faveur de l'abolition de cette condition, ou en tout cas qu'elle n'existait pas. Et là, le tribunal fédéral a très clairement affirmé le contraire. Donc, même dans le cadre de l'exécution de sentence arbitrale sur la base de la Convention de New York, vous avez besoin d'un lien de rattachement particulier. Et l'existence d'avoir en Suisse n'est pas suffisant. Voilà. Dernier point, un outil pratique utile en Suisse. Si vous anticipez des mesures conservatoires urgentes, sachez que vous pouvez déposer un mémoire préventif afin d'anticiper les arguments de votre partie adverse. Mais cela ne vaut pas dans le cas de Lugano parce que l'exécution est directe. mais ça peut être utile dans d'autres cas. Vous déposez un mémoire auprès du tribunal que vous pensez être saisi des mesures conservatoires. Alors, en Suisse, il n'y a pas de registre des mémoires préventives. Donc, si vous avez des biens dans différents cantons, vous devez déposer autant de mémoires. Et puis, veillez à ne pas dévoiler d'informations superflues. Si vous avez plusieurs comptes bancaires qui sont concernés, il faudrait déposer un mémoire par compte bancaire pour éviter de donner des informations sur d'autres comptes bancaires qui seraient inconnus de la partie adverse. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Ma présentation n'est pas dans le pack, mais vous la trouverez sur mon profil, et je pense qu'elle sera après mise en ligne. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup.